France Inter.
Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les comptes à rebours de l'actualité internationale. Aux États-Unis, Donald Trump prépare sa prestation de serment et, comme il y a 8 ans pour son premier mandat, les féministes se mobilisent. Manifestation des femmes en ce moment à Washington. Nous y serons. Comptes à rebours également en Israël et à Gaza, où les combats devraient cesser à 7h30 demain matin heure française. 3 premières otages devraient être libérés dans la journée en échange de 95 premiers prisonniers palestiniens. Nous irons dans le quartier arabe de Jérusalem. À la une également en France, la saison des salons d'étudiants. 3 jours après l'ouverture de Parcoursup, avec à chaque fois le même stress. Et puis nous nous intéresserons aux legs, ces héritages fortunés qui profitent aux communes. Encore faut-il s'engager parfois à respecter les volontés des généreux donateurs. Le temps de demain, dimanche, chez Linda Costa, peu de changements par rapport à aujourd'hui.
Oui, de la grisaille sur la moitié nord, du soleil plus ou moins voilé au sud et des pluies conséquentes sur la Corse.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
France Inter.
2 jours avant l'investiture de Donald Trump, plusieurs milliers de femmes manifestent donc ce samedi à Washington, comme il y a 8 ans lors de la marche des femmes qui avait déjà déambulé quand Donald Trump était élu pour la première fois. Et bien cette année, la marche ne veut pas se cantonner à la seule défense du féminisme. Les thèmes s'élargissent à la justice raciale, à l'antimilitarisation. Bonsoir Camille Revel.
Bonsoir.
Vous êtes l'envoyée spéciale de France Inter à Washington, on l'entend derrière vous. 8 ans après, elles sont là, mais la marche est moins imposante.
Ah, c'est vrai, il y avait 500 000 personnes à Washington il y a 8 ans. Moins de monde, mais des manifestantes très motivées. Bonnet rose, fuchsia sur la tête, pancarte à la main, mon corps, mon choix, sauvons le climat, stop au racisme, un cri de ralliement. We won't go back, on ne reviendra pas en arrière. Jill, venue de Boston, était déjà là il y a 8 ans. Je pense que cette fois-ci, beaucoup sont démoralisés. Comment ça a pu se reproduire? Comment a-t-on pu réélire quelqu'un qui menace la démocratie? Comment c'est arrivé? Tout ça à cause du prix des œufs. Millicent, elle manifeste
pour ma fille.
Elle a 10 mois. Beaucoup nous disent ici, je viens pour ma fille. Shay a 20 ans. Elle vient du Kansas avec sa mère. Je suis là parce que je refuse qu'un homme me dise ce que je peux faire ou pas avec mon corps. C'est triste que les Américains ne prennent pas ça au sérieux. Les gens doivent donner de la voix. Quel message vous voulez faire passer aujourd'hui? Ça fait peur. Ça fait peur de vivre ici. De la tristesse, de la colère, c'est ce qui ressort beaucoup dans la voix de ces manifestantes qui continuent d'arriver devant le Lincoln Memorial.
Camille Revel en direct de Washington avec Benjamin Hayes. Et parmi les commentaires sur la future présidence Trump, on retiendra aujourd'hui les propos en Allemagne du favori à la chancellerie, le conservateur de la CDU, Friedrich Merz. Il estime que l'arrivée de Trump est une opportunité pour l'Union européenne. C'est une personnalité, dit-il, très prévisible qui apportera de la clarté dans les relations entre Américains et Européens. Retenez encore sur ce sujet que Donald Trump a lancé aujourd'hui sa propre crypto-monnaie qui porte son nom. Ce lancement a d'ailleurs provoqué une fièvre d'achat valorisée à plusieurs milliards de dollars. Demain, si tout se déroule comme prévu, 7h30 heure française, débutera la trêve dans la bande de Gaza. Les armes devraient donc se taire. Une pause des combats qui devrait durer au moins 6 semaines pour permettre la libération progressive de 33 otages israéliens. Demain, les premières à être libérées pourraient être 3 femmes. Ce soir, Benjamin Netanyahou a haussé un peu le ton en exigeant d'avoir les noms des otages libérables avant tout échange de prisonniers. Israël s'est engagé à libérer 737 prisonniers palestiniens et peut-être même 1890 prisonniers, si l'on en croit le chiffre avancé aujourd'hui par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Et certains Palestiniens reviendront à Jérusalem-Est, dans le quartier arabe de Silwan, où s'est rendu notre envoyé spécial Farida Noir.
un drapeau palestinien et algérien peint sur le mur, une photo du Che Guevara près du canapé, des symboles de la résistance décorent le petit salon coloré de Jawad Siam. Les prisonniers qui doivent être libérés demain sont aussi à ses yeux des résistants.
Bien sûr, nous sommes très heureux de voir les prisons israéliennes se vider des détenus palestiniens, car ce ne sont pas des criminels. Ils luttent pour la liberté et méritent d'être libérés.
Une libération qu'ils ne savourent pas totalement.
C'est un mélange de joie et de tristesse. Vous savez, le prix à payer pour la libération des prisonniers est très douloureux. Plus de 50 000 personnes ont été tuées à Gaza.
Il se souvient de la libération des prisonniers palestiniens lors de la trêve de novembre 2023 et reste prudent.
La dernière fois qu'il y a eu un échange, les Israéliens ont de nouveau arrêté les personnes qui avaient été libérées, donc nous n'avons pas confiance.
Demain, un de ses proches devrait être libre. Un jeune homme, il avait 17 ans quand il a été arrêté pour avoir jeté une pierre sur un colon. Il en a 24 aujourd'hui, mais la police israélienne a prévenu, il ne doit y avoir aucune célébration.
Ils ne veulent pas que les gens fassent la fête, sourient, car ils considèrent que ça fait partie de la victoire des Palestiniens.
C'est ça, dit-il, vivre sous l'occupation.
Farida Nouar à Jérusalem avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Et dans le centre de Tel Aviv aujourd'hui, un assaillant armé d'un couteau a blessé un homme avant d'être neutralisé, c'est le terme de la police israélienne, neutralisé par les tirs d'un civil armé. À Téhéran, deux juges ont été assassinés dans leur bureau de la Cour suprême. L'assaillant, qui était armé d'un pistolet, s'est suicidé. Correspondance en Iran, Siavosh Ghazi.
Il s'agit de deux des juges les plus importants et influents de la Cour suprême, Ali Razini et Mohamed Morisset, qui ont été tués sur leur lieu de travail par un homme armé qui s'est ensuite suicidé. Selon les médias iraniens, l'assaillant, un employé de la Cour suprême, a utilisé une arme de guerre et faisait partie des employés de la Cour, un endroit ultra protégé. Les deux hommes ont jugé depuis de nombreuses années des dossiers importants, notamment liés à la sécurité nationale, au terrorisme et à l'espionnage. La Cour suprême est chargée notamment de confirmer les peines de mort, notamment des opposants, comme cela a été le cas ces dernières semaines, pour plusieurs opposants, notamment deux femmes activistes kurdes. Mohamed Morisset, âgé de 68 ans, était sur la liste des sanctions américaines depuis plusieurs années. De son côté, Ali Razini, âgé de 71 ans, a occupé des postes importants au sein du système judiciaire, mais aussi politique de l'Iran. Il a notamment joué un rôle très important dans les dossiers des membres des Moudjahidines du Peuple, principal groupe d'opposition armée depuis le début de la révolution islamique de 1979.
Peut-être un problème de poulie à l'origine d'un accident de télésiège. Aujourd'hui, dans une station de ski d'Astoun, c'est dans les Pyrénées espagnoles, près de la frontière française, plusieurs télésièges sont tombés. Il y a une trentaine de blessés, dont 4 grièvement.
France Inter, Éric Delvaux.
C'était mardi dernier à Rouen, une automobiliste avait percuté 3 cyclistes dans le centre-ville avant de prendre la fuite. L'une des cyclistes, âgée de 29 ans, n'a pas survécu, les 2 autres sont blessés. Eh bien aujourd'hui, 300 à 400 personnes ont manifesté à Rouen contre les violences routières faites aux cyclistes. Reportage ici Normandie, Adèle Marchais.
Les participants sont invités à coucher leur vélo tout autour d'une bicyclette peinte en blanc. Sandrine, une cycliste rouennaise.
C'est aussi un symbole, enfin, c'est encore une fois un cycliste qui décède de la violence routière, puisque là, clairement, on sait que c'était pas un accident. C'est important de marquer le soutien à la famille.
Les larmes lui montent aux yeux et l'émotion l'empêche de parler. Son casque à la main, Isabelle tient aussi à montrer son soutien.
Je suis venue avec mon vélo, ça me semblait très important, parce que je me sens concernée à titre personnel, parce que je me dis que ça aurait pu être moi. Donc c'est surtout une immense peine et puis une injustice quelque part, parce qu'on n'a pas lieu de mourir en faisant ce trajet vélo pour aller au travail.
Et puis il y a l'incompréhension autour d'un acte délibéré, mais dont les causes sont encore troubles.
J'ai compris que la personne était elle-même en mal-être, mais pour autant, je ne comprends pas qu'est-ce qui peut amener quelqu'un de ne pas se raisonner pour ne pas faire cet acte-là, même si il y a eu un instant de déconnexion avec la réalité.
Isabelle et les autres personnes présentes traversent ensuite le centre-ville. Le vélo blanc est attaché à côté de la voie de bus où l'accident a eu lieu. En guise d'au revoir à Elina, la foule observe le silence pendant un bon quart d'heure autour de la bicyclette.
C'est la saison des salons d'étudiants, salons d'orientation. 3 jours après l'ouverture de Parcoursup, dont le Premier ministre d'ailleurs reconnaissait cette semaine qu'il y avait une question autour de ce système d'orientation post-bac. Les lycéens de terminale ont jusqu'au 13 mars pour formuler 10 vœux. Un moment stressant pour certains élèves et leurs parents, comme à Saint-Quentin-en-Yvelines, au sud-ouest de Paris. Salon d'orientation où vous vous êtes rendu, François Breton.
Devant les stands des écoles et des universités, parents et lycéens s'agglutinent pour écouter les présentations sur les formations. Parcoursup a ouvert mercredi et l'inquiétude grimpe chez Caroline, élève en terminale.
Tout peut se jouer maintenant en fait, et si on n'a pas nos écoles, ça va être la catastrophe. Enfin bref, il y a beaucoup de pression par rapport à ça. Depuis le collège, on ne parle que de ça, de la suite du lycée, après les écoles supérieures, etc. Et en fait, se dire que c'est là maintenant, c'est beaucoup le stress.
Et puis les méthodes de sélection sont parfois obscures, regrette Arwen, elle est aussi lycéenne en terminale.
Il y a des écoles qui m'ont dit que comme ils avaient trop de demandes, et bah après c'est un algorithme qui fait déjà une présélection. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit stress en plus de se dire bah oui mais si c'est un algorithme, est-ce qu'ils vont prendre ?
Les deux jeunes filles en conviennent, elles sont rassurées après avoir échangé avec des responsables de formation, confie Caroline.
Notamment par rapport à mes notes quoi. Le fait que ce soit des personnes qui travaillent dans ces écoles-là et qui nous disent non mais ça va le faire, vous inquiétez pas, il y a des élèves qui sont pires que vous en fait, c'est vraiment rassurant.
L'inquiétude demeure quand même chez certains parents, explique Sylvain, papa d'un élève de terminale.
C'est vrai qu'il y a toujours l'angoisse un petit peu que finalement il n'y ait rien qui leur plaise à la fin et qu'il faille trouver des solutions un peu tardivement.
L'an dernier, selon un baromètre commandé par l'Éducation nationale, 78% des élèves se disaient satisfaits des réponses obtenues sur Parcoursup.
François Breton. Ils sont 1702 précisément, 1702 lauréats de la promotion du 1er janvier de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite. La liste est connue depuis ce matin. On y trouve pêle-mêle une centaine d'artisans qui ont reconstruit la cathédrale Notre-Dame de Paris. Chez les artistes, les actrice Camille Cotin ou Mélanie Thierry, le chanteur Étienne Dao, l'humoriste Laurent Gérard, également d'anciens ministres Marlène Schiappa ou encore Amélie Oudéa-Castéra. En tennis, 2 Français sont qualifiés pour les 8e de finale de l'Open de tennis de Melbourne. Gaël Monfils, il jouera lundi matin face à l'Américain Ben Shelton. Je rappelle qu'il a battu ce matin le 4e mondial Taylor Fritz. Et également en 8e de finale, le Français Hugo Humbert. Il disputera son match demain matin, 8h heure française, face à lui, le numéro 2 mondial, l'Allemand Alexander Zverev. Fabrice Abgral, Hugo Humbert s'apprête donc à jouer l'un des matchs les plus importants de sa carrière.
Hugo Humbert dispute son 3e 8e de finale en Grand Chelem, le 1er à l'Open d'Australie. Lors des 2 premiers à Wimbledon en 2019 et l'an passé, le Messin était presque considéré comme un invité surprise. Mais là, à Melbourne, le numéro 1 français confie en son statut. Il est 14e mondial et il fait partie en Australie des 16 derniers joueurs pouvant encore prétendre au titre. Hugo Humbert est à sa place, mais il est temps désormais pour lui de franchir un cap, de se hisser pour la première fois en quart de finale en Grand Chelem. Mais pour y parvenir, il va devoir franchir un obstacle imposant. Alexander Zverev est le numéro 2 mondial et à 27 ans, il est toujours en quête d'un premier titre majeur. Et pour beaucoup, il n'en est plus très loin. Hugo Humbert l'a constaté en novembre dernier quand le Français a été balayé par l'Allemand en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, l'une des 2 défaites du Messin en 3 confrontations face à Zverev. Hugo Humbert a tiré les leçons de cet échec. Rien ne dit que le numéro 1 français revanchard va s'imposer, mais il est certain que s'il y parvient, Hugo Humbert prendra une autre dimension et gagnera peut-être enfin une certaine forme de reconnaissance.
La retraite en vue pour le numéro 1 mondial du biathlon, le Norvégien Johannes Bo, 31 ans. Il arrêtera sa carrière à la fin de cette saison, c'est-à-dire un an avant les Jeux Olympiques de 2026 de Milan-Cortina. Johannes Bo est l'un des plus beaux palmarès du sport mondial, mais il veut désormais davantage se consacrer à sa famille. Depuis aujourd'hui, les habitants d'Escoville, dans le Calvados, connaissent enfin l'identité de la généreuse donatrice qui a légué 2 millions d'euros à la commune. Il s'agit d'une octogénaire décédée en août dernier. Un legs sous condition, car la commune de 850 habitants doit encore s'engager à entretenir 3 tombes du cimetière communal et aussi à rénover l'église du village. Chaque année, des communes bénéficient ainsi de legs, une forme d'héritage. Alain Gastal, encore faut-il répondre aux exigences des donateurs et les exemples ne manquent pas.
Près d'un million d'euros tombés du ciel pour cette commune de l'Indre de 6000 habitants, le Poinçonnet et son maire. Christine Dupré-Sago a d'abord cherché à savoir pourquoi ce couple, assez riche, sans enfants et qu'elle ne connaissait pas, avait choisi de léguer ses biens à sa commune.
Dans un premier temps, il souhaitait faire un don pour la recherche médicale et puis il y avait quand même pas mal de contraintes. Ils avaient plutôt orienté leur choix sur faire un don à la collectivité parce qu'ils s'y plaisaient bien.
Un don en liquidité qui plus est exonéré d'impôts, difficile de ne pas s'en servir pour boucher les trous du budget communal.
On l'a utilisé en partie pour acheter des jeux d'enfants. On souhaite mettre une grosse partie sur la construction de la maison intergénérationnelle.
Dans la Sarthe, le village de Rouet, 800 habitants, a lui carrément touché le jackpot, l'équivalent de 38 millions d'euros de legs, pour l'essentiel en biens immobiliers. Mais là, le légataire avait aussi des exigences que le maire Ludovic Robilas s'est efforcé de respecter.
Ce legs était à destination des personnes âgées nécessiteuses, avec des obligations testamentaires, de construire 50 logements pour personnes âgées qui paieront un loyer suivant leurs revenus.
15 ans après, deux tiers des logements sont construits, le reste est en chantier, mais parfois les exigences du légataire obligent les communes à refuser l'héritage. Les dons et legs aux communes représentaient un peu moins de 100 millions d'euros en 2022, dernier chiffre connu.
Voilà pour ce reportage d'Alain Gastal. Le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Demain, le temps va rester instable sur la Corse.
Oui, la perturbation pluvieuse ne devrait s'évacuer qu'en milieu d'après-midi, donnant encore demain de forts cumuls de pluie sur la façade est et le relief corse. Sur l'épisode, on attend l'équivalent de deux mois de pluie entre aujourd'hui et demain. Cette perturbation, elle pourrait également apporter quelques ondées sur le Roussillon, l'est de la région PACA dans l'après-midi, et tout ça avec de bonnes rafales de vent. Pour le reste de la moitié sud, ce sera plus calme, plus lumineux aussi, après dissipation de brouillard parfois givrant le matin. Pas beaucoup de changements au nord de la Loire où le ciel devrait rester bien gris, avec là aussi de nombreux brouillards givrants en matinée. On aura quand même des éclaircies sur le nord-est, mais ça sera dans l'après-midi.
Et puis il va encore faire bien froid.
Oui, demain matin, des gelées encore généralisées, une moyenne variant de moins 6 à 0 degrés. Ce sera plus doux près de la Méditerranée avec 3 à 10 degrés. Quant au maximal, elles ne dépasseront pas les 1 à 5 degrés sur la moitié nord, 7 à 12 plus au sud, avec des pointes jusqu'à 14-15 degrés près de la Méditerranée.
C'était Céline Dacosta.